Bonjour à tous, merci pour votre présence. Bienvenue au salon de lecture Jacques Kerchache. Donc je ne présente presque plus Rosset pour Hip Hop Collection, qui est un habitué du musée du Quai Branly qui vient nous rendre visite à l'occasion de ce festival chaque année maintenant. Donc Rosset, merci, bienvenue.
Merci, merci pour l'invitation.
Rosset, donc vous êtes rappeur, hein, je prends quand même la peine de rappeler votre discographie. Top Départ en 2001, Identité en crescendo en 2006, L'être humain et le réverbère en 2010, Guns N' Roses en 2013. Et vous êtes ici pour nous parler des résultats de votre activité de digger. Vous avez cherché parmi les chanteurs francophones en lutte, donc qui racontent les luttes anticoloniales et ouvrières des années 70. Le départ de tout ça, c'est les Puces de Saint-Ouen à Clignancourt. Vous avez découvert Colette Magny et Alfred Panou, entre autres, qui sont les points de départ d'une longue aventure qui a duré 10 ans. Et le résultat, c'est ce que vous voyez sur la table, donc un vinyle, un double disque et un livret très riche que je vous laisserai présenter. Donc, parler d'années de la Terre, des voix de lutte 1969-1988, dont vous allez nous parler aujourd'hui. Ce bébé est né en novembre 2018. Il a eu un très grand succès de presse, Pan-African Music, Radio Nova, Radio France, Arte, Libé et le New York Review of Books. Vous nous en parlerez. Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser parler Rosset de son travail et des disques. Pendant 1 heure, on aura ensuite une trentaine de minutes consacrées à l'échange. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes invité à participer et à nous donner vos ressentis. Et puis surtout, il y aura une séance de dédicace à l'issue de nos échanges. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Restez avec nous. Donc, merci.
Merci, merci à vous. Merci aussi à vous d'être là, nombreux, ça fait plaisir. Effectivement, j'ai fait un projet qui s'appelle Parler d'années de la Terre, dont je suis venu vous parler. C'est un projet musical. Tout a commencé en fait par la musique. Moi, à la base, je fais du rap depuis très tôt, c'est-à-dire que j'ai commencé à rapper. Je devais avoir 12 ans, 12, 13 ans. Aujourd'hui, j'en ai plus de 40. Sur la plupart du temps de ma carrière de rappeur, j'étais considéré comme un jeune rappeur. Et donc, c'est plus récemment que maintenant, on me considère un peu comme un ancien. Et donc, en tant qu'ancien, on entend un peu que parrain, que aîné un peu du rap français, j'ai eu un besoin, en fait, de comprendre quels étaient les aînés, quels étaient les autres aînés, c'est-à-dire. Je ne parle pas de NTM, de IAM, de Solar, etc. Je parle de encore au-dessus. C'est-à-dire que si on se pose la question avec les États-Unis, ça va très vite. On se dit qui était là avant Public Enemy, Grandmaster Flash, etc. Ça va très vite. C'est James Brown, c'est les Last Poets, c'est Gil Scott Heron, c'est la Soul au final, la disco, la funk, la Soul. En France, on a du mal. En fait, j'ai eu du mal à trouver la réponse. Déjà se poser la question, on a l'impression que c'est même pas naturel en fait en France. Je me suis dit, je me suis posé la question pourquoi il y a quelque chose qui me dérange quand, à partir du moment où je fais du rap sans dire spécialement de gros mots, on va tout de suite dire oui, bah c'est bien ce qu'il fait, c'est un héritier de Brel, de Brassens, de Ferré. Donc c'est assez flatteur. Donc il y a une partie de moi qui est flattée et une autre partie de moi en fait qui se posait des questions. Oui, mais d'accord, mais où est l'exil? Où est le colonialisme? Où sont les luttes ouvrières? Où sont les violences policières, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, l'héritage, en fait, n'est pas entier. Il manque quelque chose. Et d'une certaine manière, toujours cette impression de trahir quelque chose. C'est de là, en fait, que certaines questions ont commencé à venir, à dire, mais où sont nos héritages, nous, en fait, enfants de tout ça, qui faisons du rap? La deuxième chose, c'est aussi ce sentiment aussi qu'en tant que jeune rappeur, on s'attache toujours en fait à des exemples. En tant qu'ancien, si on veut avoir un minimum de bienveillance, etc., on n'arrive pas à trouver ces exemples-là. On a l'habitude, on a l'impression en fait d'être sur un chemin assez inédit. Donc en fait, c'est tous ces besoins-là qui m'ont fait en fait me positionner en fait sur la recherche de quelque chose. Mais c'était pas palpable, j'arrivais pas à trouver les mots, les artistes, je savais pas s'ils existaient. Et de là, en fait, j'ai un ami disquaire qui est un ami d'enfance avec qui on a évolué ensemble. C'est-à-dire que c'est un ancien DJ qui faisait des scratchs, qui venait du rap comme moi, qui lui, en fait, à travers le disque vinyle, en fait, est parti jusqu'à la soul, de la soul jusqu'à la funk, de la funk jusqu'au jazz et du jazz jusqu'au free jazz. Et en fait, c'est grâce à ça que ça m'a un peu politisé. C'est-à-dire que j'avais sorti un album qui s'appelle Identité en crescendo, dans lequel j'avais invité quelqu'un comme Archie Shepp, qui est un free jazzman. C'est via en fait déjà tout ce parcours-là en fait de recherche à travers le disque. Et donc lui, il me fait découvrir donc deux artistes, donc une chanteuse qui s'appelle Colette Mani, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Donc oui, donc Colette Mani, en fait elle c'était donc une chanteuse qui chantait très bien, qui avait une voix assez soul, assez blues. Et du coup voilà, elle a fait un morceau qui était un tube en fait qui s'appelle Mélocoton. Et ce morceau-là en fait tout de suite ça passait à la télé, les gens se sont dit bon ben ok, elle va faire une carrière tout de suite. Et puis les gens se disaient elle c'est un peu une sorte d'Ella Fitzgerald. Elle, ça l'a tout de suite énervée. Elle a dit, mais moi, je ne suis pas Ella Fitzgerald. Vous n'allez pas comme ça me mettre dans une case. Et puis d'ailleurs, les maisons de disques, puis elle l'a dit comme ça, hein, ce n'est pas moi qui invente. Elle a dit, les maisons de disques, voilà, vous êtes des porcs. Moi, j'arrête de chanter. Maintenant, je vais clamer mes textes. Je vais clamer les usines, les grèves dans les usines. Je vais clamer mon soutien comment dire, contre la guerre du Vietnam. Je vais clamer mon soutien aux Black Panthers, etc. Et elle a sorti des disques comme ça où, en fait, elle ne chantait plus. Elle clamait ses morceaux sur derrière des lignes de contrebasse, des batteries, etc. Et donc là, en fait, en découvrant cette artiste, je me suis dit, en fait, on dirait. On parle de slam, elle faisait du slam avant l'heure, elle faisait du spoken word avant l'heure, c'est-à-dire que c'était l'époque en fait des last poets, mais en fait on avait une sorte de last poet en France. Et parallèlement à cet artiste, je découvre aussi un autre artiste qui s'appelle Alfred Panou. Et donc là, c'est un disque assez particulier, c'est assez inédit. En fait, c'est quelqu'un qui a fait un 45 tours, en fait, en featuring avec l'Art Ensemble of Chicago. Donc l'Art Ensemble of Chicago, donc c'est un groupe de free jazz, pareil, assez engagé. Et donc dans ce projet-là, Alfred Panou, c'est quelqu'un en fait qui a fait donc deux morceaux, un morceau qui s'appelle Je suis un sauvage et un morceau qui s'appelle Le moral nécessaire. Donc lui, il est béninois et en fait, il raconte en fait son parcours en France, quand il prend le métro, voilà, un peu on va dire tout ce qu'il pense en fait. Et donc je gratte et je me rends compte que ce monsieur, c'est pas n'importe qui, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui donc était acteur en France. Qui avait monté plusieurs pièces de théâtre, une qui s'appelle Black Power, une autre, je me rappelle plus du nom, mais en fait c'était commandé par les mouvements des travailleurs à Saint-Ouen dans les années 70. Et donc en fait on se rend compte qu'il y avait déjà une sorte en fait d'engagement et que lui, pareil, en fait ses textes il les clame sur en fait de la musique pareil à ces jazz. Et donc du coup je me dis c'est marrant en fait on a déjà ça, on a déjà deux morceaux là. Et si on en a deux, peut-être que c'est possible d'en avoir trois, d'en avoir quatre. Si on a quatre, on va en trouver six. En fait, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui avait existé, mais qui en fait était enfoui sous la terre. Que c'était à nous de le déterrer. Que derrière les Johnny Hallyday, les Brassens, etc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a beaucoup comment dire, de chanteurs français que j'apprécie énormément, mais que en dessous, en fait, tous ces gens-là qui ont pris la lumière, dans l'ombre, en fait, il en existait d'autres et qui avaient peut-être des parcours assez similaires à ceux qu'on peut retrouver dans le rap, qui ont pu être, en fait, tout simplement des gens qui ont raconté les diasporas, qui ont raconté les exils, qui ont raconté certaines nostalgies, qui ont raconté les violences policières, qui ont raconté tout ça. Et donc, du coup, c'est ça que je me suis mis à chercher. Et j'ai trouvé plus que ça, c'est ça qui est assez intéressant. Donc on part avec ces deux morceaux, donc avec donc mon pote donc Aurélien, lui donc qui est disquaire. Et moi en fait, plus le temps passe, plus on trouve des morceaux, plus je me rends compte en fait que le projet se politise. Parce qu'à la base, moi je pars pas spécialement d'un projet politisé. Je pars du beau, c'est-à-dire que je cherche quelque chose, moi, qui va me donner de l'inspiration, qui va me donner envie d'écrire. Moi, j'ai toujours un pied dans le rap, moi, dans l'idée, je cherche des choses, en fait, qui vont m'inspirer. À travers ça, en fait, c'est là, en fait, que je cherche des choses, en fait, qui vont me transcender. Sauf que c'est pas ça, forcément, que je trouve des choses qui me transcendent, mais je trouve aussi énormément de politique. Et en trouvant de la politique, je trouve des portes, en fait, de sortie. C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans une époque en fait, où nous avons en fait, que des portes fermées, où on nous dit, bon, ben voilà, on est à la fin d'un cycle, à la fin du monde, à la fin de quelque chose, il n'y a pas de solution, on a tout essayé. Et avec ce projet-là, en fait, je me rends compte que non, ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui me fait me rendre compte de ça? C'est que je me rends compte en fait, qu'on ne nous a pas appris l'histoire des vaincus, on nous a appris que l'histoire des vainqueurs. Et que l'histoire des vaincus, au final, je l'apprends à travers le disque, les morceaux et les pochettes de disques. Et donc je vous donne un exemple tout bête, c'est que je suis là, en fait, il y a un disque assez important comme ça que j'ai et que j'écoute. Donc c'est un disque en fait qui s'appelle Non à la circulaire fontanée. Moi je sais pas ce que c'est que la circulaire fontanée. Et en fait c'est un disque en fait qui c'était une circulaire en fait qui était là pour réduire le droit des travailleurs immigrés. Et donc ce disque-là, il est fait par donc un certain jazzman qui s'appelle François Tuz, qui est en collaboration donc avec des musiciens et en même temps travailleurs tunisiens, marocains et espagnols. Et donc en fait, dans le disque, il y a un morceau qui s'appelle Versailles. Et ce morceau, en fait, moi, je ne sais pas trop de quoi il parle, mais c'est ce morceau que j'ai envie de mettre dans le projet parce qu'il m'intéresse esthétiquement parlant. Et c'est là en fait où on voit qu'il y a un jeu entre le beau et l'engagé. Pour moi, ça va ensemble. Il y a une phrase de Toni Morrison qui dit ça comme ça, qui dit on ne peut pas. Elle dit la beauté est porteuse de sens. Et les deux, on ne peut pas dissocier les deux. Et pour moi, c'est clairement ça. Souvent, on va parler de est-ce que le rap il doit être engagé ou est-ce qu'il doit être pas engagé. Pour moi, ça n'a pas de sens cette question. On fait ce qu'on veut au final. L'important, c'est qu'est-ce qu'il reste à la fin, est-ce que c'est beau ou pas. Donc l'engagement, on le met parce que en fait, il y a un côté beau à ça, il y a un côté romantique à l'engagement, c'est-à-dire que c'est une guerre, c'est une bataille, c'est un combat, et ce combat, on veut le gagner. Donc ça, en tant qu'être humain, on trouve ça beau. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Ne pas combattre, c'est moche. Donc à partir de là, c'est le combat est beau. Et donc en trouvant donc ce morceau Versailles, moi je comprends pas le morceau, mais je veux le mettre. Et là en fait, j'ai une amie historienne qui s'appelle Naïma Yahi, qui elle en fait est spécialiste des immigrations et en même temps de la musique, historienne spécialiste des migrations et des exils et en même temps assez calée en musique. Donc elle écoute le morceau et elle me dit mais attends, donc ça parle bien de Versailles. Donc de cette bavure policière qu'il y a eu à Versailles, et je fais mais de quoi tu parles? Donc elle m'explique en fait que effectivement il y a eu donc Mohamed Diab qui a été tué au commissariat de Versailles en 1974, et en fait le contexte dans lequel ça s'est fait, ben ça fait tristement penser à un peu toutes les violences policières qu'on peut entendre jusqu'à aujourd'hui. Et du coup je me dis mais donc ça veut dire qu'à l'époque donc déjà et là en fait elle m'explique aussi comment les gens en fait ont créé des comités pour se défendre de ça, pour lutter par rapport à ça et tout. Et donc je me dis bah en fait on n'a pas on a juste inventé l'eau tiède quoi. En réalité c'est juste qu'on nous a confisqué une mémoire, on nous a confisqué une histoire. Et au long du projet, plus le projet avance, plus je me rends compte de ça, plus je me rends compte qu'en fait les luttes qu'on mène aujourd'hui sont des luttes en fait que les aînés ont menées hier. Mais qu'au final, il y a eu une sorte de confiscation des mémoires. Et cette confiscation des mémoires, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que on nous a confisqué le mode d'emploi, tout simplement. C'est-à-dire que, en réalité, on monte une marche que d'autres ont déjà montée avant. Si on avait le mode d'emploi, si on le savait, on monterait peut-être une marche au-dessus. Et donc ça, je m'en suis rendu compte à travers ce projet, à travers les thèmes en fait qui étaient abordés dans les morceaux en fait que je trouvais. Il y a autre chose aussi, une autre raison pour laquelle j'ai voulu faire ce projet-là. Donc là, on est vraiment sur moi, ma volonté de faire un projet comme ça et ce qui m'a motivé, c'est la langue française. C'est-à-dire que moi, je fais du rap en français. Donc mes premiers amours dans la musique, c'est vu que j'ai commencé à faire du rap assez tôt, donc c'est le rap en langue française. Et je me rends compte que ben voilà malheureusement voilà il y a beaucoup de styles mu musicaux en France qui vont délaisser la langue française en fait qui vont s'attacher forcément à la langue anglaise parce que je pense qu'il y a une certaine manière une forme de complexe d'infériorité par rapport aux pays anglo-saxons. Après ben, avec le quota des radios et le fait que le rap français ça marche énormément bon on y revient mais pendant un bon moment en fait on n'y venait pas du tout et ce qui se passait avec la langue française c'est que les gens en fait la trouvaient pas belle dans la musique. Ou alors, il fallait pour qu'il y ait une sorte un peu de centralisation, d'élitisme, où en fait la langue française, il fallait qu'elle n'ait pas d'accent. Donc, il ne fallait pas qu'elle soit régionale. Et le rap français, c'est tout l'inverse. Moi, c'est ça aussi que j'ai aimé dans le rap français, c'est que le rap français, rap marseillais, ben voilà, on le reconnaît tout de suite. Le rap parisien aussi. Et puis aujourd'hui, plus qu'avant, le rap est très régional et on le reconnaît par rapport à ça. Et c'est de par le fait qu'il soit régional, en fait, qu'on l'apprécie aussi. Parce qu'en réalité, ça n'existe pas une langue sans accent. Ça, c'est à l'écrit. Mais à l'oral, il y a toujours un accent. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'accent, c'est parce qu'ils sont parisiens et c'est l'accent parisien. Donc, en fait, tout est centralisé. Et le problème avec la musique, c'est que en fait, la musique, en fait, n'échappe pas, en fait, à cette règle, en fait, des choses qui sont faites de manière très élitiste. Au final, elle transporte cet élitisme avec elle, ces injustices avec elle. Et le rap ne le transporte pas, ou alors il le transportait moins. Et donc, c'est ça aussi que je voulais trouver à travers ces morceaux-là. Donc, quand il y a un morceau, en fait, qui vient du Bénin, ou qui vient de Corse, ou qui vient du Gabon, ou qui vient d'Algérie, c'est ça aussi qu'on a dans le morceau. On a sa date, on a son pays. Et assez paradoxalement, moi, c'est ça que je vais trouver intemporel. C'est-à-dire que les gens, en fait, veulent faire de la musique intemporelle en se disant qu'ils vont la déshabiller de l'accent, la déshabiller de la temporalité et d'un certain engagement. Moi, j'ai trouvé ça fade et ce que je vais trouver intemporel, c'est justement le fait qu'elle soit datée sur un temps précis, qu'elle ait eu le courage en fait de parler sur une temporalité précise. Et donc voilà, tout ça en fait, ça fait partie de toutes mes motivations. C'était un peu mes besoins. C'est-à-dire que souvent quand on fait de la musique, on le fait ou par envie ou par besoin. Moi là, c'était carrément un besoin. C'était à l'âge que j'ai, c'était de me dire, bon, ok, qu'est-ce qu'il y a eu avant quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Sur quoi je vais pouvoir placer mes bases pour pouvoir avancer. Il y a une phrase comme ça de l'artiste Ray Lema, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit bah, c'est bien, là, les jeunes, ils ont le GPS, donc ils ont l'impression qu'ils peuvent toujours aller où ils veulent. Mais le problème, le GPS le dit lui-même, c'est que ça ne sert à rien de mettre où on va si on ne dit pas au GPS où on est. Voilà, donc ça, je trouve que ça image très bien. C'est-à-dire que j'avais besoin de comprendre où j'étais, dans quel contexte j'étais, moi, aujourd'hui, qui fais de la musique avec cette langue. Après, on pourrait en parler par rapport au rapport à la langue aussi, par rapport au rapport à une langue en fait coloniale. Il y a un livre assez intéressant de Kaoutar Archi qui s'appelle Je parle une langue, mais ce n'est pas la mienne. Et par rapport en fait aux strates en fait de hiérarchie par rapport à ça. C'est-à-dire que en fait, je sais pas moi, si je prends Youssou N'Dour, si je prends Brel. Jacques Brel, bon, les deux fait de la musique en langue française. Il y en a un qui va être classé dans la world, l'autre dans la chanson. Donc c'est pareil avec la littérature. Il y a la littérature française, la littérature francophone. Forcément, francophone, on l'imagine en dessous. Et donc en fait, c'est des hiérarchies qui sont créées de manière inconsciente, de manière symbolique, mais ces hiérarchies existent pourtant parce que la world, ça va être au fond du rayon. Et donc ça va être des choses comme ça. Et ça, c'est assez intéressant. Et quand on fait du rap français, c'est des choses dont on a conscience parce que forcément les prix les prix musicaux qu'on va gagner sont pas les mêmes que d'autres, etc. Donc voilà. Bref, là, je vous ai passé en gros les motivations d'un projet comme celui-là qui n'était pas en fait les mêmes motivations que ceux qui vont faire un projet, on va dire, de musique pour les DJ, pour les soirées. Il y avait forcément cet aspect hobo. Je voulais pas faire un. Moi, à la base, je suis artiste. Je fais pas un projet qui se justifie par bonne conscience. Je veux faire un projet beau. Mais il y avait aussi. Je voulais surtout pas dépolitiser des choses qui sont politiques à la base. Donc ça, c'était l'idée. Donc, en faisant ce projet, je me rends compte en fait des histoires confisquées. Déjà de manière super concrète. C'est-à-dire que, en fait, moi, forcément, un projet comme ça où il y a 24 morceaux, donc il n'y a pas 24 morceaux de musique, hein, il y a des interludes, il y en a 5-6. Au début, forcément, j'en ai au moins 10, 12 de France et puis les autres un peu de pays comme ça différents. Et je me dis, plus le projet se politise, plus, en fait, j'ai besoin, moi, de maîtriser ça. C'est-à-dire, je me dis, non, il manque tel pays. Il manque tel autre pays. Donc là, je vais devoir retirer pour mettre tel autre. Et comment, en fait, je me pose ces questions-là? Ben, par exemple, à un moment, je me suis dit, ben, il manque Haïti. Pourquoi? Parce que, historiquement parlant, Haïti, c'est important par rapport aux décolonisations, justement. Donc j'ai cherché à avoir Haïti. Et en cherchant ça, ben, je suis tombé difficilement, mais j'ai réussi à tomber sur le morceau qui est pour moi peut-être le plus, mon plus grand coup de cœur en fait de ce projet. C'est pareil, je cherchais le Maroc parce que j'ai des potes qui me disaient ouais, tu peux pas ne pas mettre le Maroc, machin, ceci, cela. Mais du coup, j'ai pas trouvé le Maroc, mais en cherchant le Maroc, j'ai trouvé une histoire fabuleuse dont je vous parlerai. Et un hommage au Maroc, mais que j'ai pas mis dans le projet, mais qui est très important. Donc je cherche le Burkina parce que je suis assez fan de Thomas Sankara. Sauf que le Burkina et Thomas Sankara, lui, il était là dans les années 80, on n'était plus sur le vinyle. Parce que moi, mes recherches, en fait, je les ai faites bah, voilà, en cherchant à travers le disque vinyle, pas à travers les livres. Mais sauf que lui, bon, bah, voilà, le vinyle n'était plus là, donc je regarde des documentaires, j'essaye de trouver. Et là, en fait, je tombe sur un documentaire où après son discours, donc, il y a des chanteuses en fait, qui viennent sur scène et qui chantent. Et elles chantent en français. Et donc là, je me dis, mais c'est intéressant, c'est qui? Et je trouve pas, bon, dans le générique, il parle des colombes de la Révolution, je sais pas qui c'est. Et donc je cherche, je trouve pas grand-chose à l'époque. Aujourd'hui, on commence à trouver des choses. Et je finis par comprendre en fait que c'était un groupe de chanteuses qui a été formé à l'initiative en fait de Thomas Sankara, qui lui était fan de musique. Donc il a formé deux groupes, les colombes de la Révolution. Et les petits soldats au poing levé, donc un groupe de femmes et un groupe d'enfants. Et les colombes de la Révolution, donc j'essaye de comprendre comment elles se sont formées. Il s'avère qu'en fait, il y avait un ami à Thomas Sankara qui s'appelle Abdoulaye Cissé, qui était en même temps artiste et professeur de guitare. C'est lui qui forme le groupe. Abdoulaye Cissé est encore en vie aujourd'hui, il vit au Burkina. Donc j'arrive à le contacter, je lui demande si elles n'ont pas sorti un disque. Il me dit non, elles n'ont pas sorti de disque, mais bon, on faisait des enregistrements, on s'entraînait à la radio d'État, donc peut-être qu'il pourrait y avoir des bandes. Et il va voir, et effectivement, il trouve donc les bandes de l'époque, en fait. Et donc il me l'envoie, et en fait, il y a plusieurs morceaux. Nous, on restaure les bandes, on écoute, il y a plusieurs morceaux, dont un morceau qui s'appelle Hommage à Mohamed Maïga. Et ce morceau, il est très soul, il a un côté Isaac Hayes, Barry White, un peu comme ça, 70s, et on se dit, mais ce morceau, il est beau, et on veut le mettre dans le projet. Et on ne sait pas qui est Mohamed Maïga, par contre. Et donc, on se renseigne un peu, on comprend que c'est un journaliste, donc c'est un hommage, donc forcément, il est décédé, mais on n'en sait pas plus. À cette période, donc ça date d'il n'y a pas très longtemps, hein, là je vous parle de il y a peut-être 2 ans. Donc il y a le Festival de Cannes, et au Festival de Cannes, il y a Aïssa Maïga qui descend les marches avec des collègues féminines à elle. Elles ont écrit un livre tout ensemble qui s'appelle Noir n'est pas mon métier. Un livre dans lequel elles expliquent que bon bah voilà, c'est pas leur rôle n'est pas interchangeable parce qu'elles sont noires, elles sont d'abord actrices et il faudrait d'abord penser à leur donner des rôles d'actrices. Et donc elle fait des séries d'interviews, et donc dans un interview, donc elle parle très brièvement de son père, donc le fameux Mohamed Maïga, qui s'est fait assassiner au Burkina Faso, qui était un ami très proche de Thomas Sankara. Et donc là, je me rends compte qu'en fait cet hommage, c'est un hommage donc en fait au père d'Aïssa Maïga. Et donc du coup, je lui écris un mail et je lui explique que ben, j'ai un morceau donc, qui n'est jamais sorti parce que c'est des bandes qui dormaient quoi, à la radio. Et donc du coup, elle me répond du tac au tac, franchement, dans les 3 minutes. Et elle est un peu bouleversée parce qu'elle me dit, mais en fait, j'ai rien sur mon père. Et donc elle a écouté le morceau et elle me dit, mais le fait ne serait-ce que de savoir qu'un pays en fait, a rendu hommage à mon père, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je vais pouvoir faire écouter à mes enfants. En fait, il y a une espèce de, une sorte de pansement en fait qui est là par rapport à tout ça. Et là, du coup, moi qui me disais, ben ouais, en fait, ce sont des histoires qui nous sont confisquées. Là, c'est une preuve concrète de ça. C'est-à-dire que là, en fait, c'est palpable au final. Et donc un peu la même histoire avec un autre morceau où là c'est pas quelqu'un de connu comme Aïssa Maïga, mais en fait j'ai un morceau d'un nationaliste corse en fait qui était en même temps ouvrier dans les usines Renault, donc qui a fait un morceau qui s'appelle Cadence, où en fait il parle de la des cadences dans les usines et de l'aliénation par rapport aux cadences. Et donc ce monsieur, en fait, moi, son histoire m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Il s'appelle Jean-Pierre Graziani. Pourquoi? Parce que, en fait, ce monsieur, à la base, il est ouvrier, il est métallurgiste chez Renault. Vu que c'est une grande gueule, il finit par devenir syndicaliste malgré lui. Il est tellement grande gueule que, bon, il se fait bouger de Renault. Il rentre un peu dans Action Directe, il rentre au FLNC, il a une petite période où il fait de la prison. Sorti de là, en fait, il devient, il gère en fait la partie politique d'un label qui s'appelle Expression Spontanée. En fait, il monte son propre label qui s'appelle Vendémiaire. Et donc, en fait, ces deux labels-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait le projet que j'ai fait, mais avant moi, quoi. C'est-à-dire dans les années 70-80, où en fait, ils allaient voir des pays différents et disaient, bah voilà, vous êtes en lutte, n'hésitez pas, nous, on fait de la propagande ensemble, on fait de la culture ensemble, on a en fait le format vinyle et vous mettez vos projets sur nos vinyles. Donc en fait, ils ont fait comme ça un projet avec la Guadeloupe, ils ont fait un projet comme ça avec les Comores, un projet comme ça avec le Québec, forcément la Corse et les Corses, et avec en fait les régions de France. Il y a un projet comme ça avec le Larzac. Ce qui est intéressant dans le projet comme ça avec le Larzac, c'est que le Larzac à l'époque, bon bah voilà, était en lutte. Et dans ce projet-là, c'était en fait, comment dire, ils incubaient en fait d'autres luttes. Et là, ça devient assez intéressant parce qu'il y avait les luttes des mouvements des travailleurs arabes, il y avait les mouvements de travailleurs arabes. Eux, en fait, une interlude qui est dans le projet, en fait, c'est eux qui ont invité un Mauricien à parler en fait des travailleurs mauriciens. Donc là, en fait, tout d'un coup, on se dit, ok. En fait, tout ça, en fait, il y a une des sortes de fraternité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler de convergence, etc. Bon, bah, à l'époque, il y avait des choses qui se faisaient déjà dans des réseaux et sans forcément parler de cette manière-là de convergence. Et donc, en fait, ce monsieur, je le cherche parce que je me dis, il est peut-être encore en vie. Et ce qui est intéressant, c'est pas seulement prendre son morceau, mais d'essayer de comprendre, en fait, tout le parcours qu'il a fait. Et en fait, en le cherchant, je ne le trouve pas. Et par contre, on trouve sa fille. Et donc, sa fille, on lui raconte toute l'histoire. Mais elle ne le savait pas. Elle le savait, mais sans vraiment connaître les détails. Et aussi, ça l'a touché de la même manière de comprendre que des gens, en fait, que ça, c'est pas des choses qui s'étaient évaporées, que des gens, en fait, cherchaient ça. Et c'est là, en fait, où c'est intéressant. Et ce qui fait lien directement avec ça, c'est-à-dire qu'entre l'histoire de Aïssa Maïga, entre l'histoire de la fille de Jean-Pierre Graziani, c'est que aujourd'hui même, moi, je fais des ateliers dans les collèges, dans les lycées, même pour les adultes. Enfin, je fais des ateliers, quoi. Dans ces ateliers-là, ce qui se passe, c'est que quand je vais les faire dans les collèges, même des fois dans les lycées, ça arrive, c'est que si on appelle un rappeur, c'est que ben, souvent, en fait, il y a une sorte de cassure difficile entre les élèves, les professeurs, de manière générale, les élèves et la scolarité. Donc, il y a beaucoup de bonne volonté dans les la vidéo, elle s'est arrêtée, je vais la remettre. Hein. Désolé. Voilà. Il y a beaucoup de bonne volonté dans comment dire, dans les démarches en fait des professeurs, mais on va dire, si je vais pas être de mauvaise foi, souvent c'est de la bonne volonté. Par contre, il arrive des fois, de moins en moins heureusement, bah, c'est parce que bon, ils ont un budget. Ils les ont envoyés, je sais pas combien de fois, à la patinoire. Bon, bah là, ils se disent, allez, un rappeur, ça va les occuper. Moi, dans des contextes comme ceux-là, arriver avec un projet comme celui-là, bon, bah, aujourd'hui, ce n'est pas l'époque que moi j'ai vécue. Hein. Moi, l'époque que j'ai vécue, voilà, les écoles étaient assez mixtes, on trouvait de toutes les origines dedans et tout. Bah, aujourd'hui, si je retourne là où moi j'ai grandi, où il y aura que des noirs dans la classe, où il y aura que des arabes. La question, elle se pose pas. La seule personne blanche, ça sera le professeur. Et c'est ça que je vis, moi, à chaque fois que je fais des ateliers. Et donc, le manque d'identification, il est clair, net, précis, il est super présent. Dire que les élèves, ils se disent, je serai pas prof. De toute façon, je serai pas dans la réussite parce que ceux qui sont dans la réussite, c'est pas les mêmes origines. Donc, moi, quand j'arrive avec un projet comme ça, le premier truc qui se passe, c'est qu'en fait, ils se rendent compte qu'en fait, qu'ils peuvent s'approprier, se réapproprier une histoire qu'on a confisquée. C'est-à-dire que je fais, bah, en fait, le discours un peu que je tiens, c'est de dire, bah, en fait, l'histoire de France, c'est la vôtre. C'est-à-dire que c'est celle de vos parents, c'est celle des aînés. C'est-à-dire que le fait que voilà, qu'il y ait la retraite à tel âge, qu'il y ait le droit de vote, toutes ces choses-là, ce sont des choses pour lesquelles, en fait, vos parents, vos aînés se sont battus. C'est pas en fait, c'est pas une élite qui a eu la bienveillance en fait de donner comme ça des choses. Rien n'a été donné. Les gens se sont battus pour ça, ont été en prison, etc. Donc là, tout d'un coup, il y a une sorte de réveil en se disant, bah ouais, ok, c'est vrai. Il y a une sorte de fierté en se disant, ouais, c'est vrai, on fait partie de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est grâce à nous. Du coup, une sorte pas de choses revendicatives, mais une certaine manière, bah, ouais. C'est vrai, on peut taper du poing sur la table, c'est notre monde, c'est le nôtre et c'est nos histoires. On n'a pas à remercier quoi que ce soit, c'est nous qui avons fait ça. C'est nos parents qui avons fait ça. Et donc après, il y a autre chose que je tente de faire dans ces ateliers, c'est de casser en fait avec la chronologie très eurocentrée des luttes. Disant, bah voilà, il y a eu mai 68, mais il y a eu aussi mai 67. Il y a eu en fait des luttes qui ont été faites en Europe, mais En fait, avant ces luttes qui ont été faites en Europe, il y a eu des luttes de décolonisation qui ont commencé ailleurs. Et donc, en fait, les libertés n'ont pas commencé forcément là où vous vous placez, où vous vous situez aujourd'hui. Et donc, au final, ça, c'est des choses en fait que moi j'ai appris à travers le disque. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est le disque qui me le montre. C'est-à-dire que c'est écrit noir sur blanc, c'est dans le sillon. Quand voilà, il y a les mouvements des travailleurs arabes qui sont là en France et qui vont au Larzac, parce que en fait, c'est pour la plupart des Marocains et qu'en fait, ils ont eu une sorte de formation maoïste et tiers-mondiste et qu'elle a une certaine rigueur en fait pour aider en fait les comment s'appelle les syndicats et les paysans. Bah ça, c'est sur le disque. C'est-à-dire que c'est pas inventé. Donc à partir de là, en fait, il y a eu des chemins qui ont été faits, des sortes de fraternités qui ont été créées, des fraternités, on va dire, des perdants de l'histoire d'une certaine manière. Et donc à un moment, je sens que ce projet il me dépasse parce que moi à la base je suis artiste. Et donc c'est là où en fait où Naïma, je lui dis, écoute, j'aimerais bien que tu m'aides sur ce projet. Tu es historienne. Et j'appelle aussi quelqu'un d'autre qui s'appelle Hamzad Boukari-Abara, qui lui est historien du panafricanisme, historien déjà de manière générale, mais aussi spécialiste du panafricanisme, et qui a ce point commun avec Naïma, c'est que c'est à peu près ma génération, et en termes d'écoute musicale, c'est des gens en fait qui écoutent de la musique tout le temps, qui sont pas déconnectés, qui sont complètement connectés à ce qui se passe musicalement, et donc du coup, qui vont vraiment pouvoir m'aider. En fait, on parle le même langage, quoi. Et donc du coup, Hamzat m'apprend beaucoup par rapport. Je parlais de porte de sortie. Par rapport aux portes de sortie, il m'apprend beaucoup parce que concernant le panafricanisme, c'est quelqu'un qui est assez engagé et qui est assez rigoureux, qui connaît ses chemins par rapport à ça. Et donc c'est là en fait que je me rends compte que on est héritier. Mais héritier de manière cachée, de manière invisible, de plein de choses assez intéressantes qui se sont passées et très riches. À un moment, je vous donne un exemple. Je cherche donc, je vous disais, cherche un morceau du Maroc. Et je ne trouve pas. Parce que le Maroc, ben, forcément, il n'a pas eu la même colonisation qu'a eu l'Algérie. L'Algérie, bon, ben voilà, la langue française a été vraiment présente, le Maroc un peu moins. Et donc, bon, ben, je trouve pas. Et j'ai un ami tchadien, je lui pose la question, je lui dis, moi, je galère sur ce morceau marocain. Il dit, attends, je vais demander à mon père. Lui, il est tchadien. Il demande à son père, et son père qui est assez calé en musique, il lui dit, mais il faut qu'il aille regarder du côté du Congo. Donc je comprends pas. Et du côté du Congo, effectivement, donc il me parle de Franklin Boukaka, donc qui est un artiste congolais, qui a fait donc un hommage à Mehdi Ben Barka, donc qui est un politique marocain qui s'est fait assassiner en France dans les années 70. Et donc ce fameux Franklin Boukaka s'est aussi fait assassiner. C'était quelqu'un en fait qui était pour voilà l'union des deux Congos. Il avait fait un disque s'appelait Pont sur le Congo. C'est un artiste assez renommé. Et en fait c'est là en fait que je me dis mais attends entre un ami tchadien qui me parle d'un Marocain qui me dit qu'il faut aller voir au Congo quand je vois que le mouvement des travailleurs arabes donc des Marocains qui vont au Larzac. Et là je me dis mais en fait on était dans une vraie fraternité. Et quand du coup je lis donc le livre d'Hamzat Boukhari Africa Unite sur le panafricanisme. Et en fait, je comprends que la naissance du panafricanisme, c'est né de la diaspora, parce que c'est dans la diaspora en fait que toutes les diasporas se croisent. Je me dis, mais en fait, je me rends compte aussi que moi, quand je fais les ateliers dans les classes, il y a plein d'origines différentes, mais ils sont pas sœurs, ils sont pas frères, ils se vannent. En fait, c'est quelque chose qui est émietté. Et je me suis dit, bah en fait, faut réunir tout ça. C'est-à-dire que tout ce qui a été émietté comme ça, on recrée du lien avec ça, avec les luttes ouvrières aussi. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, moi, dans les écoles et que les élèves, tout d'un coup, tendent l'oreille et que tout d'un coup, ils se sentent fiers, la prof, elle est super contente. Elle a une corde qu'elle peut tirer, enfin. C'est-à-dire que elle, en fait, on l'a ramenée là. Elle est dans cette classe, elle est désemparée et elle n'a pas de projet au final parce qu'il n'y en a pas dans les livres scolaires. Il y a juste, on va vous apprendre ci, on va vous apprendre ça. C'est complètement désossé. C'est-à-dire qu'à part. Au final, quand les enfants disent, vont parler d'un certain individualisme en disant, ouais, de toute façon, aujourd'hui, la réussite, elle peut être que personnelle, comment les professeurs peuvent défendre, enfin, peuvent avoir des arguments pour défendre autre chose? On les a laissés, en fait, sans argument. Et donc là, elle a un argument qu'elle peut tenir, elle a une corde qu'elle peut tirer, et à la fin, ben, c'est pas qu'elle dit merci, mais à la fin, en fait, il y a quelque chose sur lequel s'appuyer. En fait, ce qui se passe à la fin, c'est que, et la prof, et les élèves se rendent compte qu'ils sont ensemble contre en fait une sorte de système qui va droit dans le mur. C'est ça en fait qui se passe. Et donc sorti de ça, en fait, je me dis, bah, en fait, ce projet, c'était un besoin, mais au final, ce besoin que j'avais, en fait, on l'a tous. Moi, j'avais ce besoin parce que je fais du rap, etc., et que c'est sur la musique, et que, en fait, c'est assez inédit de chercher l'histoire à travers le disque. Mais au final, ce besoin, je pense que c'est quelque chose, en fait, qui serait assez salvateur par rapport à notre époque. Voilà, après, ça c'est le disque en lui-même. Donc après, dans les pays, dans les différents pays, j'ai voulu à un moment placer des interludes parce qu'il y avait des pays que j'ai pas trouvé. Clairement, j'ai pas trouvé la Kanaky, donc j'ai trouvé une interlude. Mais cette interlude m'a raconté l'histoire en réalité de. Donc du coup, cette interlude, c'est l'intro. C'est l'intro du disque. Je vous expliquerai pourquoi. C'est pareil donc avec le comment s'appelle avec Maurice c'est aussi une interlude il y a le Vietnam aussi en interlude voilà après ce disque-là en fait m'a fait une fois que ce disque était fini moi j'ai pas réussi à m'arrêter j'ai pas réussi à m'arrêter j'ai continué à chercher pas forcément sur la langue française en fait je continuais à chercher les pochettes. Vous pouvez en voir derrière vous, hein, ce sont des artistes qui ne sont pas forcément francophones. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ces pochettes m'apprennent des choses. Dans ce projet-là, à un moment, je voulais mettre autant de femmes que d'hommes. Je n'ai pas réussi, pareil, à trouver. Par contre, ça m'a appris pas mal de choses sur les luttes des femmes. Et les pochettes, après, de manière générale, même pas que francophones, ont continué à m'apprendre des choses. Je vous donne un exemple. À un moment, si on voit passer la pochette, je vous en parlerai, mais c'est assez intéressant. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que des fois, je trouve des choses que les historiens n'ont pas. C'est-à-dire que c'est des éléments en fait qu'eux, ils n'ont pas, et du coup, ça les aide comment dire, à avoir des éléments en plus, quoi, pour affirmer des choses en fait. Voilà. Là, c'est une pochette sur le Venezuela. C'est assez intéressant si on gratte et on essaie de comprendre c'est quoi cette pochette. C'est ce que j'ai fait. C'est exactement le même contexte qui se passe aujourd'hui au Venezuela, par exemple. Donc par rapport aux luttes des femmes, je vous en parlerai après. Je sais pas quelle heure il est. Ouais. Ok, ça va, on a le temps. Ok, je vais vous faire écouter peut-être quelques morceaux, si ça vous dit. En commençant par l'introduction, donc Kanaky. Ok, donc ça c'est Jean-Marie Tjibaou. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Donc lui en fait c'était donc un Kanak qui était assez militant. Et en fait il a voulu monter un festival qui s'appelle Mélanésia 2000. Donc là ce discours il l'a fait, si ma mémoire est bonne, en 74. Il a voulu monter un festival pour une raison qui est aussi clair que celle de mon disque, c'est montrer la culture. Parce que s'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'être humain. En tout cas, on ne va pas pouvoir se défendre si on ne se défend pas à travers cette culture. Il s'est fait assassiner. En fait, dans ce projet-là, je me rends compte, énormément de gens se sont fait assassiner, quoi, malheureusement. C'est pas par hasard, c'est clair. On va rester. Les interludes, c'est bien parce que c'est très court. Après, on passera au morceau, mais je vais vous en mettre une autre. Alors, comment on revient en arrière? Ah ouais, merci. On reste sur le même thème pour l'instant. Hein. Après, on va. Mais lui, bon, il dit la même chose, hein. Je vous explique qui c'est après. Ah Donc ça, c'est Vo Nguyen Gap. Donc lui, c'est en fait le général de Ho Chi Minh. C'est le seul en fait à avoir réussi à battre aussi bien l'armée française avec Indochine que les États-Unis avec le Vietnam. Et donc là, il était en Algérie, donc il était à Alger en 76, et c'est là qu'il a fait ce discours en français. C'est assez intéressant la langue française par rapport à ça, hein, parce que il y a cette phrase de Kateb Yassine qui est la langue française est notre butin de guerre. Parce qu'on peut se poser des questions, pourquoi avoir fait un projet comme ça en français, qui est une langue qui pourrait être vue comme une langue d'aliénation, comme la langue du colon. Et en même temps, c'est de cette langue-là que beaucoup de gens se sont rencontrés, parce que bah, au final, c'était la langue qu'ils parlaient tous, qu'ils avaient en commun. Et donc après, moi, j'ai pas de vérité par rapport à ça. J'ai des vérités sur des contextes précis, mais pas une vérité globale sur la langue et ce qu'elle représente. Après, j'ai mon avis sur la francophonie, mais ça, c'est autre chose, c'est une institution, c'est pas un concept. Donc Vo Nguyen Gap, donc qui dit ça. Donc là, on est un peu sur cette même idée en fait que voilà de la culture et de la défense de l'identité, quoi. Là, on va passer à d'autres interludes. Voilà, Ho Chi Minh. Fallait mettre de l'humour, hein, sinon c'est pas possible. Je disais, il faut que ça reste de l'art. Bon, dernière interlude que je vous mets, hein, après on va pas tout mettre non plus. Voilà, donc ça, c'est travailleurs mauriciens. Ce qui est intéressant, donc, c'est que là, ils sont invités par la troupe de théâtre à la CIFA. Et donc cette troupe de théâtre, elle a été créée par le MTA, Mouvement des Travailleurs Arabes. Donc eux, en fait, vraiment, ils sont, voilà, ils étaient dans des foyers. C'était eux, en fait, qui étaient aussi beaucoup à Nanterre. Et donc du coup, ils étaient envoyés aussi bien dans les usines, l'usine Leap, l'usine Chausson, ces usines-là, en fait. Qui ont à un moment tenté de créer des autonomies. C'est-à-dire qu'à un moment, Lip, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont viré le patron, ils se sont dit, bah, lui, en réalité, c'est lui qui dérange, c'est lui qui gêne, c'est lui qui se prend tout l'argent, qui ne fait pas tourner l'usine, c'est nous qui travaillons, donc au final, on n'a pas besoin de lui. Et donc, en fait, c'est assez intéressant comment ils ont fait ça. Et à un moment, on remettra les pochettes, et donc ce qui est intéressant, c'est de voir quand ils ont sorti un disque. C'est pas tant les morceaux qui sont intéressants, parce que souvent les morceaux, bon, voilà, c'était pas des musiciens, ils sortent une guitare, ils disent vive la lutte. Mais des fois c'est bien, mais des fois c'est pas forcément intéressant. Par contre, c'est la pochette. La pochette, en fait, c'est généreux en fait d'illustrations, généreux de textes, et c'est très explicatif. Sur une des pochettes Leap, en fait, il y a carrément le mode d'emploi de comment créer une lutte dans l'autonomie, comment se rendre autonome. Et après, pareil pour le Larzac. Il y a une phrase comme ça qui dit, voilà, ce disque coûte 1 franc, il faut que vous soyez 100 000 à l'acheter parce qu'on était plus de 100 000 au Larzac, et du coup cet argent-là va servir à soutenir la lutte. Donc en fait, ces pochettes, ce sont des objets de tract. Sur certains disques, c'est là je pense à un disque en soutien au Vietnam, où en fait le disque a été, la pochette a été pressée à Helsinki. Et des fois, enfin, on voit en fait comme ça différentes... Différents pays frères, tiers-mondistes, etc., qui vont participer en fait à un projet. Celui, les Comores, en fait, c'est les étudiants comoriens de France qui ont fait ça. Ou alors le Corse, donc le fameux Jean-Pierre Graziani, qui le disque de la Guadeloupe, il l'a fait avec les étudiants guadeloupéens. Donc en fait, c'est des choses comme ça qu'on voit qui sont assez intéressantes sur les pochettes, mais sinon, qu'on ne saurait pas, sinon ça, personne ne pourrait nous le dire. Donc ça, c'est pour les interludes. Pour les morceaux, je vais vous mettre bon, forcément ce fameux morceau hommage à Mohamed Maïga. Bon, on comprend pas bien les paroles parce qu'on l'a restauré, on a fait au mieux, on a vraiment fait le maximum, mais les bandes étaient très détériorées. vous voyez quoi l'idée du morceau. Un autre morceau, je peux vous mettre Mano Charlemagne. Donc Mano Charlemagne, en gros, c'est donc le fameux haïtien en fait que je cherchais. En fait, ce qui est assez intéressant avec Mano Charlemagne, peut-être il y en a qui connaissent ou qui connaissaient avant ce projet, c'est que ben en fait c'est un grand artiste en fait à Haïti. Moi, on m'a posé la question une fois, on m'a demandé si les artistes qui étaient dans le projet étaient des artistes connus. Et c'est assez intéressant comme question parce que en fait, oui, chacun dans sa communauté. C'est-à-dire que Slimane Azem, bah voilà, la communauté kabyle, tout le monde le connaît. Il y en a qui sont inconnus. Mais Mano Charlemagne, ce qui est assez intéressant, c'est que on parle de chanteurs qui ont chanté en français. Et Mano Charlemagne, bon, autant il était très connu à Haïti, mais encore plus que ça, c'était le maire de Port-au-Prince à un moment. Autant il est mort il y a 2 ans et il a une rue à Miami, mais pas en France. C'est-à-dire que lui, en fait, il luttait contre la dictature du Valier et il s'est pris plusieurs balles dans le corps. Et donc, en fait, il y a eu une pétition qui a été signée aux États-Unis pour qu'il puisse devenir réfugié politique. Mais cette pétition, elle a été signée pas par n'importe qui, elle a été signée par Sean Penn, par Spike Lee, par énormément en fait de gens assez connus. Et une fois qu'il est mort, effectivement, maintenant, il a eu des hommages et puis il a un nom de rue. Mais en France, personne ne connaît. Moi, j'ai vu quand il était mort, en fait, on était déjà en contact nous avec lui, on échangeait avec lui. Et quand il est mort, mais je regarde, il n'y a rien. C'est-à-dire que sur les réseaux, il y a eu peut-être 2 tweets, mais il n'y a rien eu. Je me dis, mais pourtant. C'est-à-dire que là, si on parle de la francophonie et de qu'est-ce que c'est que cette chose, que le fait qu'en fait qu'il y ait comme ça plein d'artistes qui parlent en français dans le monde entier, mais que ces artistes-là qui sont importants dans les pays dans lesquels ils chantent en français, qui ont fait tout ça, on va dire, je dirais, qui ont porté cette langue jusque-là, et que quand ils meurent, il ne se passe rien, je me dis, mais cette injustice, elle a questionné en réalité. Pourquoi c'est un pays américain qui ne parle pas en français qui va faire cet hommage-là? Donc c'est voilà, ce sont des questions comme ça que je me suis posé. Et pour donc trouver cet artiste, au début, en fait, je cherchais, j'avais trouvé un autre artiste en fait qui s'appelle Guy Durosier, qui est un artiste haïtien aussi, mais qui est vraiment les années, qui, enfin, c'est vraiment un artiste des années 50-60. Et du coup, ça correspondait moins au projet parce que ce n'était pas les mêmes époques. Et Guy Durosier, il a fait un morceau, en fait, comment dire, qui parle de Martin Luther King, hommage à Martin Luther King, qui est assez intéressant. Et du coup, je regardais un peu qui il a pu inspirer. Et c'est là que je suis tombé sur Mano Charlemagne. Et donc, la pochette, je la remettrai, elle passera. Donc, l'album s'appelle Fini les colonies. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc et tout. Et donc, là, tout l'album est bien, mais il y a un morceau en particulier que moi, qui est un peu mon coup de cœur, qui s'appelle Le mal du pays. Donc voilà, ça c'est donc morceau de Mano Charlemagne. qui est donc on va dire ouais quelqu'un en fait qui a vraiment accompagné des luttes à Haïti et donc voilà qui a même sur le dos de sa pochette en fait qui a lui-même en fait je pense qu'il en avait déjà conscience qui a lui-même en fait écrit un petit paragraphe sur son rapport à la langue française. Je vous en mets un autre peut-être le dernier je sais pas Maître Colette Mani morceau qui s'appelle La Pieuvre et je vous en parle après. C'est pas le morceau de Colette Mani que j'ai découvert qui m'a donné envie de faire le projet, mais celui que j'ai découvert, je l'ai trop écouté, du coup je voulais pas le mettre dans le projet. Je pense. Bon, alors donc ça c'est Colette Mani. Donc le morceau s'appelle La Pieuvre. Donc là en fait c'est parler d'une usine. Voilà. C'est sur un disque en fait assez intéressant parce que en fait ça a été repris en fait sur un film fait par Chris Marker sur justement le monde des usines. Et en fait la pochette du disque, il y a deux pochettes. Il y en a une où on voit sa tête. Il y a une autre pochette en fait où c'est carrément un calendrier en fait des 3-8 et donc c'est William Klein en fait qui a fait cette pochette pour elle. On peut pas finir sur si on met pas des morceaux en fait qui sont en fait les morceaux on va dire un peu qui m'ont poussé à faire un projet comme ça, c'est-à-dire vraiment qui se rapproche du rap ou de l'esthétique rap. Donc c'est le premier morceau du projet après l'interlude de Jean-Marie Tjibaou. C'est un morceau de Joby Bernabé. Qui, pour moi, que j'écoute ça, je me dis, bah ouais, c'est un peu la funk des Last Poets, de Gil Scott Heron, etc. Ça. Il s'appelle La logique du pourrissement.
Gracias.
Alors, je sais pas s'il y a des morceaux que vous voulez écouter. Si je continue sur l'écoute, si on passe aux questions. Voilà, moi bon, c'est ma question. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Levez la main pour les questions.
Alors, je vais vous demander pour les questions d'attendre le micro parce que la conférence est enregistrée pour faire archive et transmettre.
D'accord, et là je crois qu'il y a des écoutes par là. Continuez l'écoute. C'est ça. Y en a un que je ne vous ai pas mis, je vais vous mettre, hein, parce que c'est des morceaux. Je vous en mettrai un, on en parle après. Donc ça c'est Joby Bernabé, c'est un artiste camerounais. Donc il est assez intéressant lui parce que, voilà, on voit un second degré et en fait il a toujours ce second degré. Mais ce qui est intéressant en fait c'est que c'est une sorte d'artiste incompris mais qui n'avait pas spécialement envie de se faire comprendre. C'est quelqu'un en fait qui est arrivé en France, enfin qui a eu vraiment ses diplômes haut la main au Cameroun, qui est arrivé en France et qui était assez excellent en fait à l'école, qui a fini en fait par avoir un poste à l'UNESCO. Et à côté de ça, un jour, il a tout lâché pour faire de la musique parce qu'il a vécu une histoire assez douloureuse par rapport à son oncle qui est mort en prison au Cameroun, qui était contre le gouvernement. Et en fait, ces messages, il les faisait passer très souvent sous l'ère de l'humour ou vraiment de la poésie. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est une autre facette en fait de l'engagement qui est assez peu mise en avant. Et donc ce Francis Bébé en fait il a des disques en fait qui coûtent assez cher, qui sont assez rares, on va dire dans le monde entier parce que les gens vont se dire qu'il a un des premiers en fait à avoir utilisé certains instruments électroniques, etc. Et par contre, enfin, c'est assez tristement en fait, j'ai constaté que ça n'avait rien à voir en fait avec sa politisation des choses, en fait, c'est sa rareté. Et donc, du coup, c'était une sorte d'hommage, en fait, de vouloir mettre un morceau comme ça de lui pour montrer une autre facette, en fait, de cet artiste. Voilà. Je ne sais pas si on passe au. Il y en a plein, hein, des morceaux. On peut encore en écouter, c'est comme vous voulez. Sinon, des questions. C'est à vous de voir.
Bonjour,
Bonjour.
pour vous relancer sur quelque chose dont vous avez dit que vous nous en parleriez plus tard, ça va peut-être être l'occasion, vous disiez que vous aviez tenté d'avoir une forme de parité dans la compilation, mais que vous n'y aviez pas réussi. Est-ce que ça mérite des commentaires ou...
Ouais, bah tout simplement parce que on peut pas trop mentir sur l'histoire non plus, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, c'est le patriarcat était déjà là à l'époque, hein, donc on va pas, voilà, voilà, en tout cas, on a essayé, quoi. Voilà, donc il y a, j'ai pas compté du coup combien il y a de femmes par rapport aux hommes, mais il y en a pas beaucoup. Vous êtes sage, hein?
Moi, j'ai peut-être une question du coup. Est-ce qu'il y avait aussi une diffusion? Parce que je pense surtout à la diffusion. Comment est-ce que, enfin, est-ce que vous savez si ces morceaux étaient diffusés, très écoutés? Et est-ce qu'il y avait une diffusion aussi? Je pense aux cassettes qui étaient peut-être plus facilement enregistrables, diffusables. Est-ce qu'il y a encore des traces de ça aujourd'hui?
Ouais, on pourrait faire, je pense, la même chose avec les cassettes. Ce serait même peut-être plus riche, je ne sais pas, mais très riche aussi, parce que les cassettes, on pouvait aussi tout de suite les enregistrer dessus. Après, ce qui est intéressant avec le disque, c'est qu'il y a, y a la pochette en fait, qui est imprimée comme ça, et donc du coup, ça fait objet de tract. Mais oui, c'était pour le coup, c'était même des fois surtout des cassettes qui étaient diffusées et pas des vinyles, quoi. Mais le vinyle, faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un objet un peu comme ça, collection rare ou un peu embêtant parce que c'est gros à transporter et tout. Mais à l'époque, c'était un peu le seul objet de diffusion pour la musique. Donc en vrai, il y en avait partout tout le temps, quoi. Ça coûtait rien à faire. Aujourd'hui, ça coûte cher, mais à l'époque, ça coûtait pas grand-chose à faire.
J'imagine qu'entre le moment où on arrêtait de presser des vinyles et le moment où on a eu YouTube et tous ces moyens d'expression, il n'y a pas grand-chose sur CD finalement.
Si, si, le CD, il a aussi eu
Ouais.
son âge d'or et son époque. Maintenant qu'il disparaît, il y a plein de gens qui se mettent à le collectionner. Donc, c'est intéressant aussi, hein. Tous les formats sont intéressants. Le seul souci, moi, que j'ai avec. Enfin, j'ai pas de souci, moi. Enfin, mon premier réflexe, comme tout le monde, je pense, quand on me demande si je connais un artiste et que je veux découvrir, je vais sur YouTube. Mais le problème avec comment dire, avec les plateformes digitales, c'est que on veut chercher un morceau de James Brown. Déjà, la pochette, on aura la dernière réédition sortie et quand on va regarder la date, il y aura marqué 2018 parce que c'est le remastering. Donc au final, de la pochette, on ne sait rien. Si on regarde la pochette pour comprendre et l'artiste ou quelque chose, on ne verra rien de la pochette. C'est un petit carré, mais il nous dit rien, ce carré. Donc ce qui est intéressant avec. C'est pas pour revenir à des formats. Qui peut-être ne sont plus adaptés à l'époque, hein, mais ce qui est intéressant avec ces formats-là, c'est que on a pu faire l'histoire avec, quoi.
Et oui, ça permet de contextualiser et de transmettre encore une fois.
C'est ça.
C'était pour en parler des pochettes, justement. Vous parliez des pochettes et vous parliez d'une pochette sur un album qui parlait du Venezuela et vous disiez qu'il y avait une actualité qui
Oui,
était
c'est
toujours
parce que en
intéressante.
fait, je trouve ce disque, moi, sur le Venezuela, qui va repasser là un moment. Et en fait, je vois marqué FLN. Alors moi, FLN, je vois bien ce que c'est, Front de Libération Nationale, parce qu'il y a la même en Algérie. Et FALN, et ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, au final, donc, je me rends compte, c'est Front Armé de Libération Nationale. Et donc, j'essaye de comprendre, je lis donc, le dos de la pochette, je me renseigne. Et puis au final, c'est le contexte, en fait, c'était que. En fait, il y avait les étudiants, enfin les universitaires, en fait, à l'époque, avec les paysans qui s'étaient regroupés pour, en fait, donc créer ce fameux FLN et ce FALN pour essayer de renverser le président de l'époque qui était trop proche des États-Unis et par rapport au pétrole. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était, je crois, c'est 68 ou 69 ce disque. Donc voilà, c'est assez intéressant.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Vous l'avez peut-être expliqué avant que je n'arrive.
Vous avez choisi des dates très très précises, 69, 88. Vous avez peut-être expliqué pourquoi avant que je ne sois là.
Alors, ouais, alors les dates, non, j'ai pas expliqué pourquoi. Et en fait, elles sont un peu arbitraires. Je voulais être sur les émancipations. Et en fait, c'est les dates un peu. Après, ça reste des dates sur les morceaux que j'ai trouvés. Ça aurait pu être 67 et 90 ou 86. Mais en fait, le premier morceau, en fait, le plus vieux du projet, c'est donc 69. Et le dernier, le plus récent, c'est 88. Mais donc, ça, c'est des dates de morceaux et pas des dates qui ont une autre symbolique au final.
Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez eu l'occasion, en faisant cette compilation, de dénicher certains trésors, non pas francophones, mais plutôt dans une langue
Oui, il y en a. Après, il y a beaucoup de disques que j'ai pas écoutés encore, parce qu'en fait, là, on se concentrait sur tout ce qui est francophone. Mais après, avec un projet comme ça, en fait, la continuité de ce projet, c'est ce qu'on fait là maintenant, c'est en fait une exposition des pochettes. Et là, en fait, on va chercher. L'exposition s'appelle Ce que les pochettes nous disent. Et là, en fait, on va chercher vraiment dans le monde entier par rapport aux émancipations. Et là, pour revenir à Haïti, justement, il y a un morceau qui s'appelle Atis indépendant, qui, alors, je connais pas l'année exacte, mais c'est des années 70, et un morceau qui est très beau. C'est sur les premiers trucs qu'on a écoutés. Donc, c'est-à-dire, il y a encore énormément de choses à aller écouter. Après, il y a beaucoup de disques, en fait, qui sont des disques de discours aussi, des discours de président. Mais c'est pareil, en fait, c'est des découvertes. C'est-à-dire que là, dans les disques qui passent, il y en a un sur l'OUA où, en fait, il y avait le premier rassemblement comme ça des pays africains, où il y a le discours de Bourguiba, donc qui est assez intéressant, où il remercie Haïlé Sélassié, où en fait il y a comme ça des sortes de fraternité où on a comme ça les prémices de ce qui va se passer après, parce qu'on voit aussi les présidents qui se sentent proches des colonisateurs et les présidents qui se sentent proche d'une fraternité africaine. Et bizarrement, en fait, on sent en fait que comment dire, on sent les prémices de quelque chose par rapport à ça. Ça, c'est là, je m'arrête sur cette pochette-là. Je fais une parenthèse. C'est le fameux, donc c'est le groupement culturel Renaud, donc le Jean-Pierre Graziani Corse. Et donc c'est lui-même en fait qui dessinait sa pochette. Et donc c'est ça le pochette d'un 45 tours en fait sur voilà le monde de l'aliénation du travail dans les usines, etc. Mais donc ouais, pour en revenir à ça, ouais, il y a des choses comme ça qui sont assez intéressantes dans les discours. Là, pareil, je bloque sur celui-là pour vous dire, c'était donc c'est ça le fameux disque vietnamien où si on arrive à lire en dessous, il y a marqué la musique enregistrée sur ce disque est un don des étudiants de l'Union de la jeunesse de libération du Sud-Vietnam fait à l'Union de la jeunesse. Bon, ouais. Je crois qu'après je zoome. Ah ouais, vous voyez mieux ici. Ouais, voilà, simplement. Donc, représentant de l'Union de la jeunesse pour la libération du Sud-Vietnam, on fait. Ah, bon, c'est passé. On va retourner si on y arrive. Hein. Hop. Voilà. Pour la libération du Sud-Vietnam, on fait à la délégation de l'Union de la jeunesse de Yougoslavie, à la Réunion mondiale de la jeunesse et des étudiants pour l'appui de la lutte du peuple vietnamien tenue à Helsinki en 69. Bon, moi, je découvre l'histoire, hein, donc je suis complètement. Peut-être qu'il y en a qui savaient tout ça, mais en tout cas, moi, c'est vraiment, je découvre l'histoire et donc je sors d'un projet comme ça complètement en colère en me disant, mais pourquoi on nous a confisqué l'histoire? C'est un peu ça qui s'est passé. N'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions.
Quel objectif tu avais en sortant un tel projet? Ou quelle retombée tu attendais d'un point de vue social ou au niveau du pays, enfin?
L'objectif, il était très, comment dire, c'était déjà moi me faire plaisir et au final trouver moi dans la dans Dans ma carrière musicale, en fait, si tu veux, un chemin singulier, enfin voilà, qui m'est propre et personnel. Et après, cet objectif-là, au final, il a été dépassé parce que après, c'était carrément une conviction. C'est-à-dire que je suis passé d'un truc qui était un besoin à complètement ensuite une conviction, quoi. Tu vois? Et ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à un peu l'accueil du projet, nous, qu'on le faisait. Les gens étaient assez curieux d'un projet comme ça, mais ils disaient, ouais, franchement, c'est pas que c'est inaudible, mais courage pour trouver des auditeurs. C'est pas l'époque, c'est compliqué. Voilà, on est vraiment dans les tubes au vocodeur. Tu vas t'arriver avec un truc comme ça, franchement. Donc c'était un peu ça, c'était un peu bon, vas-y, de toute façon, on sait que t'es à fond, que t'es têtu sur ton truc, mais bon, on verra. Et en fait, pareil, nous, on cherchait pour un projet comme ça, c'est un projet qui coûte cher parce que faut faire de la restauration. Faut aller voir les gens, faut demander des autorisations, des fois donner des avances à des maisons de disques ou à des artistes. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Équilibrer tous les morceaux, bref. Et donc, du coup, on cherchait de l'argent. Et en fait, c'est impossible d'avoir de l'argent sur un projet comme ça. Parce qu'en fait, si on passe par la case normale qui est la demande de sub, ça marche que quand c'est de la création. Les subs, elles ont été créées pour qu'on fait de la création. Et donc, si on passe plus par, on va dire, le patrimoine, ça n'existe pas. Le patrimoine et la musique, en fait, il n'y a pas de case. Et en fait, dès qu'on veut demander de l'argent, c'est où tu rentres dans la case, où tu rentres pas, c'est super binaire. Donc nous, après, on a commencé à aller voir les trucs un peu plus politiques, commissariat général à l'égalité des territoires, les trucs comme ça. Bon, ils nous demandent d'être Charlie, ils nous demandent des trucs, ça fait vite mal à la tête, on arrête en fait. Et là, en fait, on s'est dit, de toute façon, le projet, on veut le faire. À un moment, on s'est posé la question d'aller voir les universités anglo-saxonnes parce qu'eux, ils sont un peu en avance par rapport aux post-colonial studies, etc. Ils ont vraiment des trucs par rapport à ça et on s'est dit que ça pouvait les intéresser. Et en fait, une amie qui est prof d'histoire, enfin qui a été prof d'histoire en fait aux États-Unis sur tout ce qui est histoire afro-américaine, m'a dit bah, au final, tu vas quand même te retrouver dans un truc élitiste parce qu'en fait, c'est l'université. Et donc, si c'est eux en fait qui financent ton projet, tu restes dans quelque chose d'assez élitiste. Donc là, on s'est dit, bon, on fait avec ce qu'on a et on avait pour nous pas forcément d'avoir un budget, mais d'avoir ce projet étalé sur 10 ans. Ça faisait 10 ans qu'on l'avait. Donc au final, on n'a pas trop senti ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le projet est sorti, là, on a commencé à avoir des demandes, on va dire, assez officielles, étatiques, de ouais, ben voilà, nous, on fait tel truc, ça serait bien que tu viennes parler de ton projet. Je fais, ben non. Donc on avait besoin de vous, il n'y avait personne. Et maintenant, je dis, est-ce qu'il y a de l'argent? Non, il n'y a pas d'argent, ben non, on ne sera pas là. Et au final, c'est là, en fait, où on s'est aussi posé des questions par rapport. Où est-ce qu'on se place? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Et voilà, c'est un projet qu'on a vraiment fait dans l'autonomie. Donc, est-ce qu'on va accepter, alors que ben, tout est fait, au final, de se faire encarter par tel ou tel truc? Ben non. Donc c'est comme ça qu'on l'a fait. Et après, ce qui est intéressant par rapport au retour aussi, c'est qu'il n'y a pas eu. Donc, franchement, il y a eu des super bons retours. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Je suis même le premier étonné parce qu'il y a eu de la grosse, grosse presse là-dessus, mais carrément de la presse anglo-saxonne. Donc, qu'on est rappeur, qu'on fait du rap français et qu'on a un truc dans New York Review of Book, bah, je peux m'asseoir et me dire, ça y est, c'est bon, je suis arrivé, quoi. Donc là, en fait, il y a un vrai truc en fait, qui se pose, mais. Enfin, en vrai, je pense beaucoup le savaient déjà, et moi je le voyais déjà aussi. C'est que quand nous en France, en fait, avec cette espèce de complexe par rapport à la culture anglo-saxonne, où on veut faire du rap, où on a grandi en regardant Dallas, Starsky et Hutch, bon, ben, si on veut être américain, beaucoup d'Afro-Américains regardent dès l'Afrique, en fait, que des Last Poets ou d'autres, en fait, ben, en fait, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était en fait collaborer avec des artistes africains. Et en fait, nous, à vouloir faire du rap comme les Américains, on ne se rendait pas compte que l'Afrique, ben, en fait, on y est parce qu'en fait, c'est le continent voisin, quoi. Et qu'en réalité, si on voulait intéresser les Américains, ça aurait été en faisant nos identités. La preuve avec MHD, par exemple, hein, puis je peux en citer d'autres, mais quand je dis MHD, c'est parce que bah, voilà, ça marche fort aux États-Unis, ça marchait fort aux États-Unis. Mais donc, du coup, voilà, un projet comme ça, au final, ouais, il a fini par parler énormément aux pays anglo-saxons, même dans la presse intellectuelle anglo-saxonne, en disant, bah voilà, les histoires des colonisés, les histoires des vaincus, etc., n'ont jamais été dites en musique, et donc c'est le premier projet qui parle de ça. Et donc en fait voilà, ils se sont fait un plaisir d'en parler parce que de toute façon je pense qu'il y a une sorte de taquinerie en réalité déjà politique entre les pays anglo-saxons, entre les théories en fait d'intégration à l'anglo-saxonne et à la française. Donc je pense que c'est aussi une manière d'envoyer des pics, mais c'est aussi parce que c'est vrai que c'est intéressant au final et que ça avait jamais été étudié comme ça, quoi. Je fais une parenthèse là, voilà, j'ai mis pause par rapport au Larzac, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est un peu ce qu'ils disent. Nous étions 103 000 sur le plateau du Larzac à l'appel des paysans. Aujourd'hui, le gouvernement nous lance un défi. Fin 75, les 103 paysans de Larzac doivent être expulsés. Ce disque est une de nos ripostes. 103 000 exemplaires doivent être vendus. Acheter ce disque est un acte militant. Il est fait pour populariser notre lutte contre le pouvoir et son armée. Le produit de la vente servira à poursuivre cette lutte et demain servira à d'autres combats. Et quand on voit en fait donc on va dire les morceaux ou les gens qui sont invités, là on peut voir qu'il y a le chant du MTA, donc Mouvement des Travailleurs Arabes. Il y a d'autres choses aussi. Là je les vois pas comme ça. Mais voilà, il peut y avoir aussi bien, il y avait des trucs par rapport aux Palestiniens, il y avait des, enfin, voilà, c'était une sorte de réunion, de fraternité, etc. Voilà, un disque parmi d'autres hein, où il y a ça. C'est le fameux LIP, voilà, où ils vont, où en fait, la pochette s'ouvre en plusieurs et en fait, ils expliquent la lutte. Donc, bon, je vais pas m'arrêter sur chaque pochette, mais en gros, là, carrément, ils font des croquis assez simplistes. Capitaliste, c'est pas le capitalisme, c'est pas bien, etc. Mais n'empêche que, voilà, il y a des sortes de modes d'emploi, d'autonomie. Ce qu'on verrait plus aujourd'hui hein, sur les pochettes.
Et du coup, l'impact dans le rap français depuis la sortie, et puis même au moment où vous prépariez le disque, j'imagine que ça a dû circuler un peu. Quel est l'impact? Quelle est la réception?
La réception dans le rap français, je la connais pas trop. Moi, j'ai fait quelques médias voilà, qui me suivent, hein, qui sont des médias rap français qui me suivent. Certains qui sont assez gros, comme Click de Mouloud Achour, où là, c'était une interview par Cher. J'ai fait d'autres trucs aussi. Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui avec le rap français, c'est qu'on peut dire que le rap français, il se dit au pluriel, c'est des rap français. Et donc, il y a aussi bien des gens comme moi dedans que des gens qui ont des identités complètement différentes. Et du coup, tout ça, ça se retrouve dans un seul ensemble. Et c'est ça qui fait du bien, au final. C'est que c'est super vaste, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui doivent se dire, bon, bah, Rossel, lui, il est dans sa sphère. Et d'autres vont être dans des sphères qui ont complètement rien à voir. Mais tout ça, on va définir tout ça comme du rap français. C'est ça qui est assez intéressant. Et du coup, c'est vrai qu'on peut se croiser. Moi, du coup, ça m'amusait. Je faisais ça, moi, sur mon Instagram. C'est que quand je croisais des potes rappeurs, je leur filais le disque, ils se prenaient un selfie avec. Et certains, je savais qu'ils n'allaient pas écouter ça. D'autres, bah, justement, ça leur parlait parce qu'il y a leur pays d'origine dedans. Des fois, ils sont assez étonnés. Ah, mais donc, tu connais tel artiste, etc. Donc, en fait, du coup, ça rapproche par rapport au monde des aînés, par rapport aux luttes des aînés, etc. C'est ça aussi qui est intéressant. Du coup, ça pouvait aussi se ressentir d'une certaine manière.
Est-ce que toutes ces écoutes ont modifié... alors, je suis désolée, je ne connais pas vos œuvres, mais est-ce que vous écrivez différemment? Est-ce que vous composez différemment? Est-ce que vous chantez différemment?
Alors non, pas forcément, parce que la musique, ça reste de la musique. Disons que non, peut-être que mes thèmes, du coup, vont être réfléchis d'une autre manière, mais j'espère que ça ne va pas, d'une certaine manière, alourdir, on va dire, le côté musical de la musique. C'est pas le but, quoi. Je pense que si à un moment, il y a beaucoup de choses à dire et que ça ne tient pas sur un morceau, il vaut mieux écrire un livre ou... peut-être le mettre sur la pochette comme ils ont fait, mais faut pas que ça soit là pour ça, quoi. C'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai fait un projet comme ça, sur lequel moi j'avais pas rappé. C'est qu'il y avait trop de choses à dire et eux ils le disaient déjà très bien. J'étais pas là pour prendre cette place là. C'est une des raisons pour lesquelles aussi chaque chose doit être à sa place, quoi.
Dernière question.
Ah bah du coup, est-ce que ça te donne envie de continuer, de faire d'autres projets de ce type, un peu à côté du rap? Voilà.
Ouais, ben là justement on est sur cette idée de comment dire d'exposition. On l'a fait au Point Éphémère, là elle est à Jazz à Vienne. Et là par rapport à un projet comme ça, franchement c'était super long de faire autant d'artistes. Du coup là l'idée c'est de partir sur un artiste, un projet. Voilà, on retrouver une cassette ou un disque et donc le ressortir ou retrouver. Enfin voilà. Ou un artiste ou un label, mais pas partir comme ça sur autant de choses, quoi. Ça serait ça l'idée.
On se donne un peu le temps de procéder à la vente, la dédicace surtout. Donc n'hésitez pas, si vous voulez donc acquérir le vinyle, il est à 25 euros et le disque, il est à 15 euros, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et puis si vous avez envie de prolonger la conversation de notre côté aussi, c'est possible. Merci beaucoup, merci Rosé.
Merci à vous, merci à tous.